Bonsoir à toutes et à tous. Nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur Radio Galère 88.4. Cette émission est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Et ce soir, Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence, anime l'émission. Donc, je m'appelle Jean-Yves et je suis avec Bernard.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Bernard. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter le site internet de Palestine 13, mis à jour régulièrement, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter les pages Facebook Palestine 13 et BDS Provence. Et sinon, vous avez toujours la possibilité de nous écrire à asso.palestine13@gmail.com et bdsprovence@orange.fr. Merci à Sidi qui assure la partie technique de l'émission. Donc, nous allons faire notre, comme tous les mois, avec Bernard, notre revue de presse où nous passons en revue un peu les grands événements qui sont passés concernant la Palestine. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer par écouter un extrait d'une émission de France Inter, émission dans laquelle intervenaient deux journalistes. Alors, on va dire un ancien journaliste qui était correspondant de France 2 à Jérusalem, Charles Anderlin, et également Frédéric Mettezeau, qui est lui correspondant actuel à Jérusalem. J'avoue que j'ai oublié, je ne sais pas si c'est Libération.
De Radio France. De Radio France.
Radio France. Oui. Ok, donc on voit, donc c'est dans l'instant même, il est question du traitement de l'information en compagnie de ces deux journalistes, et on remarquera particulièrement à la fin de cet extrait que la journaliste recadre sans complexe Anderlin pour avoir évoqué les assassinats de Palestiniens par les forces de défense israéliennes en disant que ça ne fait pas partie du sujet, alors que bon...
Oui, et j'ajouterais que c'est bien de le signaler parce que ça pourrait échapper à nos auditeurs.
Voilà. En fait, son propos, c'est de dire que les médias ne parlent pas de ce qui se passe en Palestine. Eh bien, c'est exactement ce que dit Anderlin. Donc, je ne comprends pas pourquoi il la recadre. Voilà, donc on écoute ce petit extrait de 3-4 minutes.
Sur la base de ce suivi très rigoureux, nous constatons que les tirs qui ont tué Abu Akleh provenaient des forces de sécurité israéliennes et non des tirs indiscriminés de Palestiniens armés. Plus de 6 semaines après le meurtre de la journaliste Shirin Abu Akleh et la blessure de son collègue Ali Samoudi à Jenin le 11 mai 2022, il est très inquiétant que les autorités israéliennes n'aient pas mené d'enquête criminelle.
Vous venez d'entendre la porte-parole de l'ONU, doublée par nos soins. Jusqu'où faudra-t-il monter pour que les Israéliens cessent leurs accusations de impartialité. Cette fois, ce n'est pas une autorité palestinienne, ce n'est pas un média américain, c'est bien l'ONU, oui l'ONU, qui accuse l'armée israélienne. Je rappelle que le 11 mai, Shirin Abu Akleh, journaliste travaillant pour la chaîne Al Jazeera, figure extrêmement populaire de l'information, a été retrouvée à terre. Elle a été tuée par balle malgré le port d'un casque, d'un gilet de protection et malgré l'inscription sur ce dernier du mot « presse ». Sa mort a provoqué un séisme dont l'onde de choc n'a pas fini de se propager. L'Instant M tire un premier bilan de cette guerre de l'information entamée au moment même où la mort de la journaliste a été annoncée. Par ailleurs, hier, le porte-parole de l'armée israélienne a été obligé de démissionner.
L'Instant M, Sonia de Villers, sur France Inter.
Lorsque le corps de Shirin Abu Akleh quitte l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem, la foule est nombreuse. Le climat, rapidement tendu. À peine arrivée aux grilles, la police israélienne repousse la sortie du cercueil. La situation dégénère. Les policiers chargent, allant jusqu'à frapper ses porteurs. Un instant, le cercueil manque de tomber au sol.
Les images ont fait le tour du monde.
Elles ont fait le tour du monde, sauf en Israël.
Ah bon ?
Puisqu'elles n'ont pas fait l'ouverture du journal de 20h ce soir-là. Moi, je m'attendais à ce que, effectivement, les JT israéliens ouvrent, comme on dit, leurs éditions sur ces images absolument stupéfiantes. Eh bien non, ça a été relégué beaucoup plus tard dans les journaux parce que le même jour, un militaire israélien était mort en action, justement à Jenin, la ville où Shirin Abu Akleh a été tué. Mais c'est vrai que ces images, elles ont été absolument stupéfiantes. Inimaginable. C'est vrai que dans un pays démocratique où la liberté de culte est garantie, la liberté de manifestation est garantie, on n'imaginait pas un tel déchaînement de violence. Bon, que des manifestations politiques soient réprimées, on peut dire que ça fait partie du jeu. Qu'un convoi funéraire soit attaqué, ouais, ça fait beaucoup moins partie du jeu. Et c'est vrai que j'ai suivi presque tout le cortège. C'était très difficile parce que la foule était très dense, ça bougeait énormément, mais ça a été une journée sous énorme tension et ça n'a pas été facile de travailler d'ailleurs parce que le Shabak, le Shin Bet, c'est-à-dire les services de renseignement israéliens intérieurs, avaient brouillé toutes nos communications téléphoniques dans une grande partie de la ville de Jérusalem et donc c'était pas toujours simple pour communiquer avec Paris.
Alors, il y a eu à la fin de la semaine la conclusion d'un rapport de l'ONU, du Haut Commissariat de l'Organisation des Nations Unies aux Droits de l'Homme, un rapport qui conclut à la responsabilité directe et sans appel de l'armée israélienne dans la mort de cette journaliste palestinienne, journaliste de la chaîne Al Jazeera, et je l'ai dit, figure très populaire de l'information au Moyen-Orient. Et pourtant, Tsahal, l'armée israélienne, continue de dénoncer la partialité des enquêtes menées sur le sujet. Ça vous surprend, Charles Anderlin ?
Eh bien, écoutez, non, absolument pas, au contraire. Vous savez, en l'occurrence, on parle beaucoup de la mort de Shirin Abu Akleh parce que elle était journaliste, très connue, vous l'avez dit, et puis elle avait la nationalité américaine, et l'administration Biden demande des explications aux Israéliens, mais il ne se passe pas de semaines, parfois de jours, sans que des civils non combattants palestiniens soient tués au cours d'opérations réalisées par l'armée israélienne. Vous savez, j'habite ici, je suis franco-israélien, et je dois dire que je suis de plus en plus inquiet de voir la manière dont les soldats israéliens ont la gâchette facile. Il y a beaucoup, beaucoup trop de civils palestiniens tués au cours de ces opérations.
Sauf que notre sujet, Charles Anderlin, là, ce matin, c'est la façon dont sont menés les récits sur ces exactions, et là, en l'occurrence, sur la mort d'une journaliste palestinienne.
Donc, nous allons continuer après ce petit intermède. Hein. Vous avez vu effectivement comment la journaliste recadre Anderlin. On va continuer avec un témoignage du journaliste Jacques-Marie Bourget. Alors, je ne sais pas s'il exerce toujours son métier de journaliste. Il est peut-être à la retraite parce que, en fait, il a été tiré par un soldat israélien. Donc, Bernard va nous faire une lecture du commentaire de ce journaliste, Jacques-Marie Bourget, qui était paru suite à un article du Monde après l'assassinat de Shirin Abu Akleh.
Voilà, alors ce journaliste explique ce qui s'est passé le 21 octobre 2000. Pour avoir l'un de reportages le 21 octobre 2000, était tiré par un sniper israélien équipé d'un M16. Le M16, c'est le fusil d'assaut des Américains, hein. C'est pas une 22 long rifle. Je sais de quoi est capable le pouvoir israélien. J'ai pris une balle dans le poumon gauche, veine sous-clavière rompue, Israël ayant refusé de me soigner. J'ai été pris en charge par les secours et chirurgiens palestiniens qui m'ont sauvé la vie et fait de moi un miraculé, avec, dans les veines, 5 litres de sang transfusé de jeunes palestiniens. Ensuite, les Israéliens ont refusé mon évacuation vers un hôpital parisien. C'est Chirac, alors président, qui s'est mis en colère et m'a arraché à ce chaos. La suite, ce sont des longs mois d'opérations et une vie foutue de handicapés et traumatisés. J'ai déposé une plainte. Israël a refusé de collaborer avec les juges français. Après 20 ans de lutte judiciaire, le Fonds français de garantie contre les actes terroristes a été contraint de reconnaître la faute israélienne et de m'indemniser. Voilà comment se passent les choses dans cet État exemplaire. Alors, ce qui est évidemment redoutable, c'est la manière dont les Israéliens traitent la chose et laissent le pays d'origine du mitraillé s'occuper des indemnisations de la gestion de ses blessures et tout ça, en commençant par les Palestiniens qui sont privés de tout, qui ont été contraints pour sauver sa vie de faire les travaux, de faire les opérations chirurgicales. Et de donner 5 litres de sang à ce journaliste. Voilà, c'est oui, ça, oui. L'État exemplaire, c'est ça.
Et l'armée la plus morale du monde.
Et voilà. Et la seule démocratie du Moyen-Orient.
Voilà, il paraît. On continue avec un article de Acrimed. Acrimed, qui est une association de critiques des médias. Et donc, ils ont sorti un article qui s'intitule « Palestine, la désinformation aux 20 heures de France 2 continue ». Continue, le terme est important. Et en juillet 2021, Acrimed s'était intéressé à la couverture qu'infligeait le 20 heures de France 2 au conflit, entre guillemets, opposant Israël aux Palestiniens. Ils avaient noté à ce moment-là à quel point c'est une constante dans la rédaction de France 2, pour ne pas dire une ligne éditoriale, que de mutiler l'information et le droit d'être informé en accumulant les œillères, les angles morts et les biais, voire les mensonges. Un constat qui n'est pas démenti depuis, y compris lorsqu'une journaliste palestinienne mondialement reconnue est récemment assassinée par l'armée israélienne. Alors, c'était le 11 mai, France 2, à propos de la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh, s'est illustré par un récit biaisé et ayant viré au fil des jours à la désinformation. Le 11 mai, il fait peu de doute que la reporter a été assassinée par l'armée israélienne de façon intentionnelle, visée par un tir de précision derrière l'oreille alors qu'elle couvrait une opération de l'armée dans le camp de réfugiés de Jenin. Étudions un peu l'attitude éditoriale de France 2.
Sur France 2, le 11 mai au soir, nous apprenons qu'une balle lui a été fatale, alors que le témoignage de la journaliste, un témoin direct, Chata Ahmad, est diffusé, faisant état d'un assassinat de la journaliste par l'armée d'occupation. Il est introduit comme si par la voix off de Maryse Burgot. À ses côtés, une autre journaliste, elle réalise que sa consœur est décédée et elle est évacuée sous les tirs. Et sous le choc, elle accuse Israël. Ça, c'est Maryse Burgot. Une formulation sournoise et superflue qui remet insidieusement en cause la lucidité et la fiabilité du témoignage de la journaliste. La rédaction de France 2 choisit donc de mettre les deux versions sur le même plan. Mise en cause, les autorités israéliennes accusent les Palestiniens. annoncé déjà Anne-Marie Lapix en introduction et de s'en tenir là, en attendant que soient rassemblées des informations plus précises ou les résultats d'une hypothétique enquête internationale. Les éditions suivantes du JT nous le diront. Deux jours après, le 13 mai, second sujet à l'occasion des obsèques de la journaliste.
Et là, la présentation du sujet est un concentré de désinformation par omission. Je cite « Tension et violence aujourd'hui lors des obsèques de la journaliste d'Al Jazeera, tuée par balle en Cisjordanie. Plusieurs milliers de Palestiniens lui ont rendu hommage à Jérusalem. » Violence lors des obsèques, certes, mais infligée par qui ? Ils ne le diront pas. Tuée par balle, oui, mais tirée par qui ? Ils ne le diront pas non plus. Le lancement du reportage du même acabit continue à entretenir l'ambiguïté. Autre titre ce soir avec des scènes de violence intense, alors qu'il s'agissait d'un jour de deuil, d'un jour d'obsèques. Celle de la journaliste de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tuée par balle à Jenin cette semaine, lors de la couverture d'un raid par Tsahal sur un camp de réfugiés. Alors que s'est-il passé aujourd'hui à Jérusalem ou encore à Jenin ? Ce soir, la Maison-Blanche et l'Union européenne ont réagi face à ces violences. Réaction donc de l'Union européenne et de la Maison-Blanche qui mettent en cause les autorités israéliennes, sans que la présentatrice du JT ne le dise. En revanche, il est présenté ensuite un reportage d'une minute 38 secondes qui débute sur des images amateurs de violence. Non pas celle de l'armée israélienne attaquant le cortège au cours des obsèques de Shirin Abu Akleh, images qui ont été diffusées dans le monde entier, mais des images de violence palestinienne. Et Marc de Chalvron de commenter les tirs nourris de ces combattants palestiniens et la réplique de l'armée israélienne. Donc, si vous regardez France 2, vous en savez, vous pensez que c'est les Palestiniens qui tirent, les Israéliens jamais. Et depuis, c'est un trou noir éditorial.
Donc, on espérait tout de même que le principal JT du service public, dont on ne doute pas une seconde de l'attachement viscéral à la liberté de la presse, reviendrait sur cette affaire. Il n'en saura rien. En un mois, du 11 mai au 11 juin, le cas de Shirin Abu Akleh et de la situation dans la région, tout court, à une exception près, ne sera traité que dans ces deux sujets, 4 minutes et 18 secondes, au total en 32 jours, soit 1,3% du temps d'antenne dédié aux sujets internationaux sur la même période. Aucune mention par France 2 des éléments suivants. L'enquête d'Associated Press et celle de CNN, l'enquête en open source de Bellingcat, le rapport officiel du procureur en chef palestinien en charge de l'enquête, transmis aux autorités américaines, l'annonce d'une saisine de la Cour pénale internationale par Al Jazeera pour crime de guerre, l'annonce d'une plainte conjointe à la même juridiction de trois organisations, dont la Fédération internationale des journalistes, ajoutée à celle d'avril 2022, dénonçant un ciblage systématique des journalistes par l'armée israélienne de nature à mutiler, tuer et la destruction des infrastructures de presse en Palestine. S'y ajoute le rejet systématique d'une enquête internationale par Israël. Donc, rien, rien. Un désintérêt répété qui, comme nous le disions plus haut, touche le conflit entre Israël et les Palestiniens dans son ensemble. À la même période, la rédaction du 20h ignore superbement, par exemple, la marche des drapeaux du 29 mai, qui fut pourtant, comme le titra un reportage du Monde, un déferlement de haine anti-arabe dans les rues de Jérusalem, incluant violence, brimades et slogans génocidaires. « Mort aux Arabes, Mahomet est mort, que votre village brûle !» Et ce refrain, « Shuafat est en feu » de la part des manifestants israéliens. Même les messages sur Twitter de son ancien correspondant, Charles Landernin, ayant dénoncé l'intégrisme messianique au cours de cette journée, n'ont daigné inspirer le moindre sujet à la rédaction du 20h. et c'est signé Pauline Pernaud. Voilà, donc là, on se rend compte quand même du complot, hein, disons-le tout net, pour une fois, du complot entre les gouvernements, les médias. Je dis les gouvernements, même si le gouvernement français et américain ont fait une remarque à Israël.
Une remarque,
c'est ça, c'est ce qu'on dit en matière diplomatique. Nous nous inquiétons fermement de la situation. On ne fera jamais rien, mais on s'inquiète. Voilà, donc c'est absolument terrifiant de voir que cet abcès ne crèvera jamais. C'est-à-dire que l'omerta est un argument, n'est pas un argument, mais c'est une façon de évidemment d'occulter le débat et de n'en parler jamais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas comment TF1 a traité le sujet, hein, mais voilà, là, il s'attache à France 2, qui est quand même une chaîne du service public. Service public qui devrait donc
qui vit encore
informer les gens.
Et qui vit encore avec notre redevance.
Peut-être pas pour longtemps, voilà.
Pas pour longtemps. Alors, un autre personnage international et un intellectuel américain très, très au fait de ces questions, s'est saisi de l'affaire, lui, de l'apartheid. Et j'ai nommé Noam Chomsky, qui dit que sur l'apartheid israélien, BDS, il parle de BDS, et il ajoute que il parle de la solution à un État, puisqu'il a très bien connu l'apartheid sud-africain, et donc, vous allez voir, il fait quelques petites balances pour savoir, pour essayer de comparer ces choses qui, malheureusement, n'ont pas grand rapport à mon ami, hein, mais bon.
C'est Middle East Monitor qui s'est entretenu avec cet intellectuel, professeur Noam Chomsky du Massachusetts Institute of Technology. L'objectif principal de l'entretien, c'était d'examiner les défis et les opportunités auxquels est confrontée la lutte palestinienne pendant cet interrègne en cours. Et donc, sous une forme un peu simplifié, nous allons évoquer les réflexions de Chomsky sur ces questions tirées d'une conversation plus longue qui peut être consultée donc sur le site de Middle East Monitor. Alors déjà sur l'apartheid israélien, comme tu disais, Bernard.
Oui, alors donc Chomsky pense qu'appeler les politiques israéliennes envers les Palestiniens l'apartheid est en fait un cadeau à Israël, du moins si par apartheid on se réfère à l'apartheid à la sud-africaine. J'ai longtemps soutenu, dit-il, que les territoires occupés sont bien pires que l'Afrique du Sud, a expliqué le professeur. L'Afrique du Sud avait besoin de sa population noire, elle comptait sur elle. La population noire représentait 85% de la population, c'était la main-d'œuvre. Le pays ne pouvait pas fonctionner sans cette population et par conséquent, ils ont essayé de rendre leur situation plus ou moins tolérable pour la communauté internationale. Ils espéraient une reconnaissance internationale, ce qu'ils n'ont pas obtenu. Alors ici, je crois que c'est très intéressant parce qu'après il en parle, mais je vais faire l'inter maintenant. C'est que je suis tombé moi sur une déclaration d'Elias Sambar, au moment où je faisais un papier pour critiquer la série Faouda, et j'ai été très, très impressionné par ce que disait Elias Sambar, et on le retrouve ici. Il comparait les différentes colonisations, et il disait le Congo, la France, ont colonisé, mais ils ont souvent gardé les populations comme, entre guillemets, serviteurs et travailleurs. Or, les États-Unis ont ça de commun avec Israël et un peu l'Australie, c'est qu'ils font des colonies, ils dégagent les gens qui sont originaires de cet endroit, ils veulent les faire partir, c'est pas du tout, ils ne veulent pas vivre en bonne entente avec eux pour éventuellement leur donner des emplois, comme c'est dit dans le papier de l'intervention de Chomsky, c'est simplement qu'ils veulent les pousser dehors. Ainsi, Alors, je continue avec Chomsky. Ainsi, si les Bantoustans étaient plus ou moins vivables, il n'en va pas de même pour les Palestiniens des territoires occupés. Israël veut juste se débarrasser du peuple simplement rendu à la vie invivable, alors que le peuple palestinien ira ailleurs. La politique répressive s'applique à tout le territoire palestinien. À Gaza, il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent maintenant dans des conditions affreuses, à peine vivables. Les organisations de droit international disent qu'elles ne pourront pas survivre dans quelques années. Dans les territoires occupés, en Cisjordanie, les atrocités ont lieu tous les jours. Et Chomsky ajoute, contrairement à l'Afrique du Sud, Israël ne cherche pas l'approbation de la communauté internationale. L'effronterie des actions israéliennes est assez frappante. Ils font ce qu'ils veulent, sachant que les États-Unis les soutiendront. Eh bien, c'est bien pire que ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ce n'est pas un effort pour accueillir d'une manière ou d'une autre la population palestinienne en tant que main-d'œuvre. C'est juste pour s'en débarrasser. Donc voilà, la nuance, elle est là quand même. Elle est que, dans le cas de, comme il le dit très justement, la population sud-africaine n'a jamais été expédiée ailleurs. Elle est restée chez elle, même si c'était épouvantable la vie qu'on leur faisait. Alors que les Israéliens, on le note de jour en jour, comme pendant ce défilé des drapeaux, c'est-à-dire la seule chose qui les intéresse, leur seul objectif, c'est de virer les Palestiniens.
Et de prendre la terre, les maisons, les champs, etc.
Oui. Des possessions complètes, voilà.
Voilà. Il dit, ça, c'est un changement très positif. D'une part, ce qui a gravement entravé la lutte palestinienne, c'est le conflit entre le Hamas et l'OLP. Tant qu'il n'est pas résolu, c'est un grand cadeau pour Israël. Les Palestiniens ont également réussi à surmonter la fragmentation territoriale. À l'époque, on s'en souvient, il y avait eu des manifestations également en Israël avec les Palestiniens israéliens. La scission entre les frontières légales, entre guillemets, séparant Israël de la zone élargie de la Grande Palestine, donc cette frontière légale, c'est en gros la ligne verte, elle a toujours été un obstacle à l'unité palestinienne. Cela est maintenant en train d'être surmonté car la lutte palestinienne se transforme en la même lutte. Les Palestiniens sont tous dans le même bateau. Et c'est ce que disaient les rapports sur l'apartheid qui disaient qu'il y a un apartheid de la Méditerranée au Jourdain et pas simplement en Cisjordanie. La description par Bethlehem et Human Rights Watch de toute la région comme une région d'apartheid, Chomsky dit même si je ne pense que ce n'est pas assez dur, est un pas vers la reconnaissance qu'il y a quelque chose de crucialement en commun entre tout ce domaine. C'est une étape positive. Il est sage et prometteur pour les Palestiniens de reconnaître nous sommes tous dans le même bateau, et cela inclut en plus les communautés de la diaspora. Oui, c'est une lutte commune.
Oui, alors c'est très intelligent.
Vas-y.
C'est très très bien que Chomsky inclut les communautés de la diaspora, parce que je crois que c'est cette unité du peuple palestinien, où qu'il se trouve, c'est très important.
Surtout que l'autorité palestinienne, elle ne favorise pas cette unité, puisque, par exemple, quand elle fait certaines réunions de l'OLP, elle les fait en Cisjordanie, de telle façon que les réfugiés, les gens de la diaspora, tout ça, ne puissent pas y assister, puisque Israël leur interdit l'entrée dans le territoire. Donc, l'autorité palestinienne participe à cette segmentation en différentes populations des Palestiniens qui rend service à Israël, finalement. Divisé pour régner, toujours pareil.
Voilà. Alors maintenant, on passe maintenant pour Chomsky sur la question « un État ou deux États ?». Donc, il dit qu'un récent sondage d'opinion mené par le Centre des médias et de la communication de Jérusalem a conclu qu'une majorité de Palestiniens en Cisjordanie soutiennent désormais la solution à un État. Chomsky met en garde contre les discussions qui ne donnent pas la priorité à la conversation plus urgente que la quête coloniale de Tel Aviv pour le Grand Israël. Nous ne devrions pas être trompés en pensant que les événements évoluent vers un résultat, à un seul État ou vers une confédération. Cela ne va pas dans cette direction. Ce n'est même pas une option pour le moment. Israël ne l'acceptera jamais tant qu'il aura l'option d'un plus grand Israël. Et de plus, il n'y a aucun soutien pour cela dans la communauté internationale. Aucun. Pas même les États africains. Deux États, eh bien, on peut en parler, mais vous devez reconnaître que nous devons en priorité lutter contre l'option en direct d'un grand Israël. Ce débat entre les deux ou un État élimine l'option la plus importante, l'option poursuivie à ce jour en direct, à savoir le grand Israël. Établir un grand Israël où Israël prend tout ce qu'il veut, en Cisjordanie, écrase Gaza et annexe illégalement les hauteurs du Golan syrien, prend juste ce qu'il veut, évite les concentrations de population palestinienne dont il ne les intègre pas. Ils ne veulent pas de Palestiniens à cause de ce qu'on appelle l'État juif démocratique, la prétention d'un État juif dans lequel l'État est l'État souverain du peuple juif. Donc c'est mon État, mais pas l'État d'un villageois palestinien. Alors voilà, donc, là, on touche quelque chose d'extrêmement compliqué. Je ne sais même pas s'il y a l'once d'un projet qui puisse définir ce que serait une fédération ou un seul État.
Pour l'instant, c'est Israël qui n'a jamais voulu définir ses frontières, ce n'est pas au hasard, c'est bien ce qu'il dit, ils veulent le grand Israël. Donc Chomsky s'exprime ensuite sur le BDS et la solidarité internationale. Il a été interrogé sur la solidarité croissante avec les Palestiniens sur la scène internationale et dans les médias sociaux, et sur le soutien à la lutte palestinienne par de nombreuses personnalités et célébrités bien connues. Chomsky a déclaré « Je ne pense pas que les célébrités grand public signifient grand-chose. Ce qui compte, c'est ce qui se passe au sein de la population générale aux États-Unis. En Israël, malheureusement, la population se déplace vers la droite, pour ne pas dire l'extrême droite. C'est l'un des rares pays que je connaisse, peut-être le seul, où les jeunes sont plus réactionnaires que les plus âgés. Les États-Unis vont dans la direction opposée, les jeunes sont plus critiques envers Israël et de plus en plus favorables aux droits des Palestiniens. » Chomsky a reconnu le rôle important joué par le mouvement populaire mondial BDS, bien qu'il ait noté qu'il a un bilan mitigé. Le mouvement devrait devenir plus flexible et plus réfléchi sur les effets des actions. La base est là, il est nécessaire de bien réfléchir à la manière de le faire avancer. Voilà, alors avant de parler de l'antisémitisme, hein, on a quelques articles traitant de l'antisémitisme, on va passer un morceau de musique, et donc c'est un morceau de musique avec... Alors, je vais retrouver, c'est Naïb Barghouti, qui est une chanteuse très populaire en Palestine. Elle chante sur la terre et sur le peuple palestinien.
Oh. جميعا فمن يرثي الحمام من منا يحصي السنابل يا وطن المقاتل أجراس الفجر آتية وعتم الليل زائل
On a dit qu'on allait parler de l'antisémitisme et de ce qui se passe sur le front de l'antisémitisme. Justement, on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet très, très polémique et surtout instrumentalisé par Israël. Prenons l'exemple du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme qui vient de sortir un papier en disant, intitulé « Le Tour de France partira-t-il avec l'antisémitisme collé à ses roues ?» En fait, le Tour de France est devenu un support de communication pour Israël et le BNVCA, accuse donc BDS et ses officines, comme ils disent, notamment le collectif Palestine vaincra, d'utiliser le Tour de France comme un support de communication, alors que c'est quand même Israël qui l'utilise pour faire sa propagande, sa hasbara. Donc le BNVCA dit « Israël hors du Tour de France » est le mot d'ordre de cette année, arguant de la politique coloniale d'apartheid et de génocide, pas moins. Ses officines dont le fonds de commerce et la haine d'Israël trépignent sur la ligne de départ. Il y avait eu une première tentative en janvier 2022 auprès du président de l'Union cycliste internationale, le sommant d'éliminer l'équipe israélienne qui déclina poliment au motif simple que c'est une équipe homologuée en bonne et due forme. Bon, on a vu qu'avec
les Russes, oui.
Les Russes, il n'a pas hésité à faire ce qu'on lui demandait. Et donc le BNVCA continue en disant que la campagne de communication est axée sur les concepts de colonial, apartheid et génocide. Alors colonial, ils disent, c'est une invention palestinienne. L'apartheid, c'est un mensonge discriminatoire, soi-disant à cause des 20% de la population non-juive, très majoritairement arabe, qui a des députés élus à la Knesset, un groupe faisant partie de la coalition sortante, etc. Ce mot est vide de sens appliqué à Israël. Mais
à ce détail près quand même, hein, que s'ils étaient israéliens, ces arabes, ils feraient leur service militaire, voilà, par exemple.
De toute façon, ils n'ont pas les mêmes droits.
Et ben voilà, donc il faut bien dire ça, qu'ils n'ont pas les mêmes droits.
Mais les ONG ont bien montré que ce n'est pas parce qu'il y a des gens, des médecins, etc., qui travaillent dans les hôpitaux israéliens, des médecins palestiniens, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas un apartheid. Globalement, c'est un apartheid. Les Palestiniens ne construisent pas comme ils veulent, n'habitent pas où ils veulent, etc. Et donc le troisième mot génocide auquel fait référence le BNVCA, donc ils disent c'est un autre fantasme palestinien. Après ils comparent la Russie et Israël en disant les BDS n'ont pas remarqué que ce sont des gouvernements qui, dans une action concertée de sanctions contre l'agression militaire russe, ont décidé de boycotter les concurrents russes de diverses manifestations. Mais c'est vrai que dans le cas de la Russie, ce sont les pays. Mais BDS est là justement pour montrer, pour faire comprendre à nos dirigeants que l'action d'Israël en Palestine et l'action des Russes en Ukraine, c'est kif-kif. Il faut que nos gouvernants fassent pour Israël comme ils l'ont fait pour les Russes.
Et du deux poids, deux mesures, toujours.
Le BNBCA dit l'Ukraine existe, ses villes sont détruites, des civils meurent sous les bombes. Si BDS ne fait pas la différence, c'est inquiétant. Mais bon, à Gaza aussi, des civils meurent sous les bombes. Les villes sont détruites. La Palestine, quoi qu'ils en disent, existe aussi. Et en fait, il reprend à son compte le slogan « Une terre sans peuple ». Le peuple palestinien n'existe pas pour un peuple sans terre. Puisqu'il nie ainsi l'existence des Palestiniens qui meurent également sous les bombes israéliennes à Gaza et sous les balles des forces armées israéliennes en Cisjordanie. Il y a 60 morts depuis le début de l'année, dont énormément d'adolescents d'enfants. Et d'enfants. Voilà. Ce qui est plus incompréhensible, dit toujours le BNBCA, c'est le laxisme dont ces officines bénéficient, sous-entendu de la part de nos gouvernements. Oui, et rappelons au BNVCA que la CEDH, la Commission européenne des droits de l'homme,
oui.
Voilà, et a établi que l'appel au boycott fait partie des droits fondamentaux liés à la liberté d'expression. Voilà. Donc, maintenant, on va faire une petite série sur l'Allemagne.
On va faire un petit tour en Allemagne, oui.
Un petit tour en Allemagne, voilà. Et on va commencer à propos de l'antisémitisme en Allemagne en parlant d'une œuvre polémique qui a été décrochée à la Documenta de Kassel, Kassel, ville allemande.
Alors, l'œuvre monumentale a été confiée cette année à un collectif indonésien. Elle a été recouverte et décrochée de l'endroit où elle était installée. Un nouveau scandale antisémite pour l'événement d'art contemporain. Donc, effectivement, la Documenta est une manifestation d'art moderne et contemporain qui a lieu tous les 5 ans. Elle a été créée en 1955 par Arnold Bode afin de réconcilier le public allemand avec l'art que les nazis nommaient art dégénéré. Il semble cependant, sur la base de recherches historiques ultérieures, que plusieurs autres fondateurs ont été liés au régime nazi, tel Werner Hofmann était aussi commissaire d'exposition des 2e et 3e Documenta, et que le but de cet événement était aussi de faciliter la réintégration dans le domaine culturel de la République fédérale d'Allemagne dans l'Occident. En 2022, la responsabilité de cette édition est confiée à un groupe d'artistes indonésiens, Juan Grupa, qui installe la fresque, rapidement retirée, pour cause d'antisémitisme. En effet, un dessin représente un porc cosmonaute paré d'un foulard sur lequel est imprimée une étoile de David. Ces actes antisémites jettent un froid glacial sur la Documenta. Là, antisémitisme sans problème. C'est parce qu'il y en a un autre où il y a un personnage avec un chapeau et les papillotes avec écrit SS dans son dos. Donc là, on est dans un antisémitisme complet. Le maire de Kassel, la ville où a lieu cette manifestation, alors qu'il avait défendu les artistes et inauguré la manifestation dans la bonne humeur le 15 juin, s'est publiquement désolidarisé de Juan Grupa, le collectif indonésien, invité à la direction artistique de la manifestation. Rappelons ici que l'Indonésie abrite la plus grande population musulmane du monde et n'a aucune relation officielle avec Israël. Le pays a appelé à plusieurs reprises à la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Des tensions diplomatiques qui n'ont pas aidé l'organisation de cet événement artistique. Mais en quoi cet événement intéresserait-il la Palestine? Eh bien, parce que dans le collectif, il y a un groupe d'artistes palestiniens, The Question of Funding, qui a créé une œuvre intitulée Guernica Gaza. Alors, ce titre de Guernica Gaza nous renseigne complètement. Guernica est la ville martyre qui a été bombardée par les nazis pour aider Franco. C'est le premier bombardement civil de l'histoire des guerres. Donc, ça veut dire que Guernica et Gaza, malgré leur, en plus de leur jet et de leur jet, font partie de ces pays qui ont été sacrifiés et bombardés. Donc, ce titre résume bien le sens de ce groupe, que ce groupe veut donner à son travail. Elle montre des soldats israéliens en train d'attaquer des paysans palestiniens. Ce collectif, très critique envers l'occupation israélienne, est accusé d'être lié au mouvement Boycott des investissements sanctions, BDS, qui prône le boycott d'Israël en raison de son occupation des territoires palestiniens. Les autorités allemandes ont très vite réagi, fait inhabituel. Tout d'abord, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a vivement tensé dans son discours l'absence d'artistes juifs ou israéliens. Il s'est dit perturbé lorsque des représentants du Sud refusent de prendre part à des événements, à des conférences ou à des festivals auxquels participent des juifs israéliens, comme c'est désormais le cas de plus en plus fréquemment. La reconnaissance de l'existence d'Israël constitue en Allemagne la condition et le fondement du débat, a-t-il souligné. Selon le président, l'art est libre. L'art peut être choquant, il doit provoquer des débats, a-t-il dit. Et critiquer la politique israélienne est aussi permis. Mais une frontière est franchie lorsque la critique envers Israël se transforme en mise en cause de son existence. Alors là, il faut rétablir les choses. Notons la vérité toute relative de cette tonitruante déclaration, car le BDS n'a jamais appelé à une mise en cause de l'existence d'Israël. Mais l'Allemagne, quels que soient les crimes commis en Palestine, a toujours, dans un aveuglement systématique, soutenu Israël. Ce soutien perpétuel de Berlin à Israël devient chaque jour plus problématique. Donc, Guernica à Gaza devient une fresque antisémite, seulement parce qu'elle expose des soldats israéliens en train d'attaquer des paysans palestiniens. Cette image n'est pas une image antisémite, elle est malheureusement le lot quotidien de la population palestinienne des campagnes, mais aussi des villes, également occupées par l'armée israélienne, qui mérite le qualificatif pour raviver des souvenirs peu glorieux d'armée d'occupation. L'Allemagne boira jusqu'à la lie le calice de la culpabilité et à la fin, dévorera même le calice.
Bravo, c'est une belle formule. Bien, donc voilà, on a vu ce qui se passe en Allemagne avec la dénonciation de BDS, etc. Et ce n'est pas le seul article qui parle de quelque chose qui se passe chez nos voisins. Un autre article paru dans Chronique de Palestine, sous la plume de Habir Kopti. Habir Kopti, c'est une doctorante à l'Institut d'études sur les médias et la communication de la Freie Universität Berlin. Dans ses domaines de recherche, il y a la participation politique des jeunes générations et les nouveaux médias. Donc son article s'intitule « Quand l'Allemagne veut blanchir ses crimes sur le dos des Palestiniens ». On a déjà vu qu'après la guerre, on avait déclaré partagé la Palestine de façon à se débarrasser de la culpabilité de la Shoah sur le dos des Palestiniens qui n'avaient rien à y voir. Donc, son article commence comme ça. Les voix palestiniennes sont étouffées en Allemagne, un pays qui tente de s'affranchir de ses crimes passés envers un groupe de personnes, et cela en criminalisant un autre groupe. Donc, s'affranchir de ces crimes passés envers les Juifs en criminalisant les Palestiniens. Donc là, cette fois-ci, il s'agit du Goethe-Institut, association culturelle financée par l'État allemand, et qui organise un forum Beyond the Lone Offender, au-delà de l'agresseur isolé. Donc, le Goethe-Institut a annulé une invitation qui avait été faite à l'éminent écrivain et journaliste palestinien Mohamed El-Kurd, à ce forum, au-delà de l'agresseur isolé. Après mûre réflexion, le Goethe-Institut a décidé que Mohamed El-Kurd n'était pas un intervenant approprié pour son forum, parce que dans de précédents messages sur les médias sociaux, il avait fait plusieurs commentaires sur Israël dont la formulation n'a pas été jugée acceptable par le Goethe-Institut. Approprié et acceptable, c'est deux mots importants dans leur communiqué. Et ces mots ne sont pas vraiment choisis au hasard. Ils sont le reflet de la manière profondément enracinée d'aborder la cause palestinienne en Allemagne. L'autrice dit « Je veux parler de condescendance. C'est à nous, Allemands, bien installés dans notre petit confort, de décider ce que vous, les victimes, avez le droit de dire ou de ne pas dire sur votre oppresseur, victime étant les Palestiniens, oppresseur toujours les Israéliens. » L'ironie est que l'Institut Goethe avait invité le journaliste palestinien Mohamed El-Kurd à parler de la façon dont les États se détournent des violations des droits de l'homme. Et ils y sont en plein dedans. Cela montre aussi comment les Allemands se soumettent au diktat de la pensée unique lorsqu'il s'agit d'Israël. Ce qui est approprié et acceptable n'est pas évalué selon des critères allemands, c'est ce qu'Israël considère, lui, comme approprié et acceptable. Un peu comme quand certains États, certains parlements ou cités acceptent la définition de l'antisémitisme telle qu'elle est définie par l'IHRA, l'institut qui doit défendre la mémoire de l'Holocauste, mais qui en fait fait référence à toutes les attaques contre Israël et qui assimile cet antisionisme, entre guillemets, à de l'antisémitisme. Hantés par leur passé, les Allemands tentent de transférer leur sentiment de culpabilité sur les épaules des Palestiniens. L'antisémitisme n'est plus leur problème, c'est celui des Palestiniens. Les Palestiniens qui ne veulent pas assumer cette responsabilité ni s'excuser ne sont pas des voies appropriées et acceptables. Ce que le Goethe-Institut a fait, c'est délégitimer Kurd, sa parole et tout ce qu'il représente. À partir de maintenant, il sera difficile à une institution allemande d'inviter Kurd à ses conférences. La norme a été fixée, sa voix n'est pas acceptable ni appropriée pour les Allemands. Et contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, cette volte-face a été accueillie par la société allemande dans un silence assourdissant, exception faite de quelques Allemands qui ont osé annuler leur participation en signe de protestation contre cette annulation d'invités kurdes. En mai dernier, la police de Berlin a interdit des manifestations du jour de la Nakba, a arrêté des dizaines de militants descendus dans la rue malgré l'interdiction. Et les médias allemands qui ont couvert l'histoire du Goethe-Institut l'ont traité comme une simple information, se contentant de rapporter la déclaration de cet institut. Kurd n'a pas été invité à commenter. L'Allemagne nous traite ainsi, elle parle de nous, sans nous. Voilà. Une grande quantité de conférences et événements ont été annulés ces dernières années suite à des pressions et des accusations d'antisémitisme. Par exemple, en 2019, le docteur Anna Esther Jungs, universitaire germano-palestinienne, a été désinvitée d'un événement où elle devait prendre la parole après qu'un dossier secret la concernant a été envoyé aux organisateurs. Donc, un dossier secret. On fonctionne comme Israël qui, pour la détention administrative, utilise des notes blanches, entre guillemets, du Shabbat. Voilà. Quelle sera la prochaine étape? Est-ce qu'on va obliger les Palestiniens à dissimuler leur identité pour ne pas être pourchassés dans les rues? Voilà. Alors, donc on voit qu'en Allemagne, il ne fait pas très bon être Palestinien et parler et vouloir défendre les Palestiniens. Rappelons encore, pour terminer avec l'Allemagne, que Amnesty International, donc, au début de l'année, a sorti un rapport disant que Israël est un état d'apartheid de la Méditerranée au Jourdain. Et donc Amnesty Allemagne a refusé de prendre en compte ce rapport parce que ils correspondaient pas à leur façon de penser, ou j'en sais rien, mais voilà. Ils n'ont pas accepté du tout, il n'a pas été commenté en Allemagne et il n'a pas été diffusé. Bon, donc nous allons terminer cette émission. On se retrouve début août. Mais en attendant, je vous recommande aussi un article que vous pourrez trouver qui dit, vous pourrez le trouver sur le site de Palestine 13, il faut abroger la résolution 181 de l'ONU. La partition de la Palestine a été une grande erreur, une grave erreur. Le 29 novembre 1947, les Nations Unies adoptaient la résolution 181 qui partageait la Palestine pour créer un État juif. Le sentiment à l'époque qu'il devait y avoir une forme de compensation pour les Juifs était largement partagé, même si c'était aux dépens de ceux qui n'avaient rien à voir avec l'Holocauste. Et l'auteur dit, c'est Tony Greenstein, antisioniste juif et membre fondateur de la campagne de solidarité avec la Palestine. Presque trois quarts de siècle plus tard, il est évident que c'était une épouvantable erreur. Avant même la création de l'État d'Israël, 300 000 Palestiniens avaient été expulsés. Depuis lors, Israël a mené des guerres préventives contre tous ses voisins. Mais surtout, il a fait la guerre aux Palestiniens qui sont restés en Israël et ceux qui se sont retrouvés sous sa domination lorsqu'il a occupé la partie de la Palestine qu'il n'avait pas réussi à saisir en 48, à savoir la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le temps est venu pour l'ONU de reconnaître que la résolution 181 fut une grave erreur et de l'abroger, et avec elle la légitimité d'Israël. Voilà ce que dit Tony Greenstein. Donc merci d'avoir écouté cette émission. Merci Bernard, merci Sidi.
Donc, merci Sidi et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.